reconnais en écologie.
On sort des mouvements de colère des routiers en France
qui protestent
contre le prix élevé du gazole.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Le bonus automobile plombe les comptes de l'État.
En amour.
Oui, il y a urgence à agir pour sauver la planète.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Rémi Quincier et Pierrick Monsigny à la technique, sans oublier Marion Lollet, notre assistante, Jean-Christophe Pinaza et Valérie Ayestaraï qui réalisent l'émission. D'abord un grand coup de chapeau pour leur flegme et leur courage à nos cousins japonais, passagers en détresse à bord de leurs grandes îles qui tanguent. Secousse record donc hier, vous le savez, au nord-est du Japon, un morceau de croûte terrestre de 500 km de long fait un bond de plusieurs mètres sous les eaux du Pacifique. Vous connaissez l'équation, tremblement de terre au fond de l'océan égale tsunami. Vous avez tous vu donc les images, région dévastée. À Tokyo, à 400 km de distance, on a été secoués comme des cocotiers, mais les immeubles parasismiques ont tenu bon, donc merci aux ingénieurs du BTP. On s'est réfugié sous les bureaux, le long des murs du métro, ou bien parmi les cerisiers, pas encore en fleurs, dans le jardin du palais impérial. Et puis ce matin, plus de doutes quant à l'état de plusieurs centrales nucléaires de la région par rapport à ce séisme. Évacuation des habitants dans un rayon de 10 puis de 20 km, suivi d'une explosion à la centrale numéro 1 de Fukushima. Fuite radioactive. Bon, on espère que l'enceinte de confinement évidemment ne sautera pas, parce que là ça ferait comme une marmite nucléaire et on se retrouverait dans la situation d'un nouveau Tchernobyl. Et pendant ce temps, la Terre continue de trembler un peu partout sur notre petite planète. Que pouvons-nous y faire, me direz-vous? Comment voulez-vous lutter contre ces catastrophes naturelles? Là, non, on ne peut pas. Un tremblement de terre, ça a commencé bien avant l'apparition des hommes, ça continuera après. Mais, en revanche, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Détour par l'Arkansas et sa série de tremblements de terre à répétition. Alors, vous permettez, je prends ma carte des États-Unis pour vérifier... Non, la région n'est pas a priori une zone sismique, hormis le méga tremblement de terre de la Nouvelle-Madrid. C'était en 1811, au cours duquel on a cru un instant que le Mississippi coulait à l'envers et qui a été ressenti dans 27 États. Et puis depuis, pas grand-chose, jusqu'à ce que l'on se lance dans l'exploitation des fameux gaz de schiste, et oui, encore lui, et qu'on se débarrasse de l'eau utilisée pour fracturer les roches en la réinjectant dans le sous-sol. La semaine dernière, pour voir, la Commission du gaz et du pétrole a demandé aux compagnies gazières de cesser ce genre d'opération. Et le nombre de secousses sismiques a aussitôt diminué. Fabuleux, n'est-ce pas? Alors, question, un nouveau méga tremblement de terre dans l'est des États-Unis, ça toucherait combien de centrales nucléaires? Et si plutôt que de transformer en gruyère notre très jolie petite planète, si on la laissait tranquille au pays du soleil soulevé ou ailleurs, ce serait pas mal. Alors, notre dossier va être consacré aux déchets aujourd'hui, avec, j'ai grand plaisir à recevoir Alain Geldron, qui est le chef du service, alors là je prends mon élan, filière responsabilité élargie du producteur et recyclage à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Bonjour Alain Geldron.
Bonjour Denis Chessou.
De quoi allons-nous parler exactement?
Eh bien, nous allons parler aujourd'hui du tri et du traitement mécano-biologique.
Voilà, qui fait évidemment énormément débat en France. On le sait, du côté de la Vendée et du Pays Basque, qu'on ira retrouver aussi un maire, donc ce fameux tri mécano-biologique. Qu'est-ce que l'on trie véritablement? Comment ça se passe donc aussi à l'étranger, mais sans plus tarder. Ah, on a aussi besoin de regarder quand même la nature. Et là, nous avons l'homme qu'il nous faut. Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
L'évolution vue par un botaniste. Alors, je vois un chapitre qui s'appelle « L'addition des tuniques protectrices ». Qu'est-ce que c'est?
La vie commence dans les océans.
Oui.
Elle commence par le niveau bactérien. Ensuite, on passe des bactéries au niveau des cellules à noyaux. Ces cellules à noyaux ne peuvent plus échanger leurs gènes parce que les gènes sont séquestrés dans le noyau. Alors, ils ont inventé un truc que nous connaissons, nous les humains aussi, qui n'est pas marginal, qu'on appelle la sexualité. C'est-à-dire qu'une cellule mâle et une cellule femelle vont se rencontrer et donner un œuf. Et dans cet œuf, il y aura les gènes de la cellule mâle, les gènes de la cellule femelle. Et ces cellules mâles et femelles s'appellent des gamètes. Mais il y a un gamète qui est plus important que l'autre.
Ah.
c'est le gamète femelle. Parce que le gamète femelle, il va donner la vie.
C'est comme ça dans la vie.
C'est maman. Alors, le gamète femelle, la nature se dit, excusez-moi, de faire de l'anthropocentrisme, il faut que je protège ce gamète femelle. On le trouve dans la mer, tout seul, tout nu, pas protégé du tout, et n'importe quelle bestiole peut le dévorer.
Alors, quel scénario se met en place ?
Alors, ce scénario qui se met en place, c'est des stratégies pour protéger cette cellule femelle. Alors, on va lui mettre d'abord un cache-col. Ça, c'est ce qu'on voit dans des petites algues qui s'appellent les caras. Alors, ce cache-col, c'est quelques cellules qui s'enroulent autour du gamète femelle. Et là, il y a un mystère que je trouve extraordinaire. C'est que ces algues qui vivent actuellement, elles ont le cache-col enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui. Mais il y a des fossiles qui ont le cache-col enroulé à l'envers. Toutes celles qui ont des cache-col enroulés à l'envers ont toutes disparu. Mmh. Et seules sont restées celles qui ont le cache-col enroulé à l'endroit. C'est quand même étonnant.
Oui. Explication ?
Il n'y en a pas, mais on constate. Mais alors on se dit, un cache-col, ça ne suffit pas. Il faudrait, excusez les comparaisons, puisqu'il faut faire simple, il faudrait une sous-chemise, il faudrait une chemise, il faudrait un pull vert, il faudrait une veste, il faudrait un manteau. Hein, ça fait 5 trucs. Eh bien, au long des millions d'années de l'évolution, tous ces revêtements vont s'additionner autour de la cellule femelle. Et finalement, il va y avoir autour de la cellule femelle cette enveloppe protectrice pour que vraiment elle soit bien protégée. Et alors la question se pose de savoir si ce mécanisme n'est pas en train de continuer. La dernière enveloppe protectrice, tout le monde la connaît, c'est le fruit. Dans le fruit, il y a la graine. La graine, c'est 5 enveloppes protectrices. Et le fruit, c'est la 6e.
Jean-Marie, est-ce qu'il n'y a pas des plantes qui auraient une tunique supplémentaire ?
Alors, c'est une question qu'on s'est posée et on a cherché dans ce sens-là. Et on a trouvé. On a trouvé, dans la famille à laquelle appartient le boldo, une plante...
Excusez-moi, le boldo...
Le boldo, c'est une tisane pour le foie.
Ah oui, d'accord. Oui.
On a trouvé une plante qui enveloppe son fruit dans quelque chose qui est une sorte de superfruit. Il y a le superfruit, dans le fruit, il y a la graine, dans la graine, il y a l'ovule, dans l'ovule, il y a plusieurs tuniques, et la dernière, tout au milieu, il y a le fameux gamète femelle. Et vous avez un exemple déjà de ce mécanisme d'enveloppement avec les figues. Quand ça craque sous la dent, ce n'est pas les graines, c'est le fruit. Parce que dans la figue, la fleur est toute petite. Et la fleur, elle est posée sur un réceptacle qui est fermé au bout et qui fait la figue. La chair de la figue, c'est ce réceptacle qui protège les petites fleurs. Mais l'insecte qui fait la pollinisation, il rentre par un trou en haut. Et il va dans la figue, il tourne dans la figue, il amène le pollen, il s'en va. Tandis qu'avec la plante que je viens d'évoquer, c'est la même chose, mais il n'y a plus de trou. L'insecte ne peut plus rentrer. Donc c'est une nouvelle protection qui se fait et c'est la 7e tunique. Alors, on peut imaginer que d'ici 100, 200, 300 millions d'années, il y aura encore plus de tuniques. Maintenant, que faut-il penser de cette obsession de la nature ? Moi, j'aurais fait autrement, figurez-vous.
Oui, mais enfin, elle ne vous a pas demandé son avis.
Non. Mais moi, j'aurais fait comme fait la colchique. Alors, la colchique, elle est très astucieuse. Elle met son ovaire, et donc sa cellule femelle, dans la terre. Alors là, c'est très efficace comme protection.
Oui.
Et les fleurs... Elles sortent de la terre et le pollen arrive tout à fait en haut de la fleur. Et puis, il y a un tube qui va jusqu'à la cellule femelle où le spermatozoïde va la féconder. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est très embêtant parce que, du coup, le fruit va être enterré, il ne pourra plus se disséminer. Mmh. S'il est enterré, comment il pourra circuler, comment les graines vont circuler ? Mmh. Eh bien, la colchique, quand elle est fécondée, elle sort son fruit, elle le met en surface. Et là, les graines peuvent être dispersées. Je trouvais ça très astucieux.
Tout ceci est le résultat de l'évolution ?
C'est ça l'évolution. Et comme on a parlé de l'associativité, on voit qu'il y a ici une association de tuniques successives qui s'empilent les unes sur les autres. C'est à nouveau le même mécanisme. Et ce mécanisme, il joue partout dans le monde végétal et n'a pas été bien vu, à mon avis, dans le monde des scientifiques de l'évolution.
Alors, vous allez reprendre votre manteau, c'est votre tunique à vous. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
L'évolution vue par un botaniste chez Fayard, c'est de Jean-Marie Pelt.
CO2 mon amour, Denis Chessou.
Et l'amour, tes gigolos ont su trouver le filon. Qu'ils fassent la rue ou qu'ils fassent des chansons, depuis le temps qu'ils s'occupent de croquer tes millions. Et l'amour, ta mauvaise mine, tu sais, dans tes romans et dans ces films où tu parais tout le temps entre une voiture de sport et deux téléphones blancs. Et l'amour, si tu veux bien ce soir, oublie donc tes trottoirs, tes pin-up, tes dollars. Et l'amour, et reviens-moi tout nu sur tes ergots, comme je t'ai connu quand on était genoux et qu'on n'avait rien sur le dos. Et l'amour, oui te voilà, t'es bien toujours pareil. T'as pas changé, t'es comme cendre et soleil, tout gris quand tu t'endors et bleu à ton réveil. Et l'amour, comme un grand frère, viens t'asseoir à mes genoux. Tu sais très bien que je ne serai pas jaloux de tes bonheurs d'un jour, de tes mômes à deux sous. Et l'amour, quand tu les fais de riz, si tu vois le paradis, me faire des prix. Et l'amour, avant de courir vers d'autres rendez-vous, mets tes dentelles et rejoue-moi foufou. Attention aux voisins d'en dessous. Et l'amour, pardonne-nous tous nos accordéons, pardonne-nous ces vers de mirliton qu'on chante à ton baptême ou pour ton oraison. Et l'amour, depuis le temps que tu rimes avec toujours, si ça t'ennuie d'écouter nos discours, on pourrait tous les deux s'en aller faire un tour. Et l'amour, tu sais bien qu'avec moi, tu feras ce que tu voudras, qu'importe où l'on ira. Et l'amour, déploie des ailes comme un vrai chérubin, on arrivera sans doute un beau matin au septième ciel et même un peu plus loin.
Ferra, oui, pour se faire plaisir, j'ai demandé à Muriel Pérez de nous passer ce disque-là. Oui, donc il y a un an, donc Ferra disparaissait. Je pense qu'il aurait été du combat aussi des gaz de schiste chez lui en Ardèche. Ça nous fait du bien de l'entendre, surtout dans ces périodes donc tout à fait noires de ce qui se passe au Japon. On le sait avec cette catastrophe naturelle actuelle, naturelle, vous voyez, catastrophe nucléaire actuellement qui est en cours. Et donc on va parler aujourd'hui des déchets. Alors si petite précision, on me dit Gilles a raison. Je vous admire Jean-Marie, etc. Mais honte à vous, colchic et masculin. Bah oui, effectivement. Donc voilà, donc c'est pas une, mais c'est bien le colchic. Nous sommes avec Alain Gendron, donc nous parlons des déchets. Alors peut-être pour bien comprendre un peu les choses aujourd'hui, si on vous demandait, par exemple, combien on a de déchets en France, tout compris, bah, ce chiffre-là, on ne le sait pas forcément, c'est à peu près 850 millions de tonnes. Et dans les 850 millions de tonnes, vous en avez une grande partie qui vient de l'agriculture et de la sylviculture, plus de 350 millions. Pareil aussi pour les mines, les carrières et les BTP, plus de 350 millions. Donc là, c'est vraiment le gros de la troupe. Les entreprises, en gros, 90 millions. Et puis après, on redescend la tête dans notre poubelle, hein, qu'elle soit jaune, bleue, verte ou à pois rose, parce qu'il y a quand même plus de 300 systèmes aujourd'hui de tri qui sont un peu différents. On va arriver à 31 millions, pour en ce qui concerne 31 millions de tonnes. Alors ça, c'est peut-être moi qui vais le rajouter, mais on va dire que le poids des déchets n'est pas proportionnel au poids politique, parce que le poids des déchets, évidemment, c'est piloté par des élus, donc des intérêts qui sont derrière, des pouvoirs, c'est aussi un petit peu comme l'eau. Et en plus, il se trouve que les grands opérateurs sont les mêmes derrière. Donc, on a notre poubelle avec 390 kilos, avec nos seules ordures ménagères. Donc, qu'est-ce que l'on en fait aujourd'hui? Donc, Alain Gendron, on va dire les grandes répartitions, qu'est-ce que ça devient entre l'incinération, la décharge, le tri, en pourcentage?
Alors, en termes de répartition des modes de traitement, hein, on a tout d'abord la valorisation énergétique, hein, qui représente à peu près une trentaine de pourcents. La valorisation organique.
Ça, c'est l'incinération, on va dire,
l'incinération énergétique. Valorisation énergétique, c'est l'incinération avec récupération d'énergie. Okay. Il reste une très faible partie en France de déchets qui sont traités sans valorisation énergétique, c'est-à-dire 1,5%. Un peu plus de 13% de valorisation organique, 20% de valorisation matière et 31% de mise en décharge de ces déchets.
Alors, est-ce que l'on fait mieux ou différemment dans d'autres pays? On imagine que les ordures sont traitées différemment, je ne sais pas, en Allemagne, en Suède, etc.
Alors, effectivement, les politiques de gestion des déchets varient suivant les pays. Dire que l'on fait mieux, c'est peut-être pas aussi évident que ça. Ce que l'on peut voir, par exemple, en Allemagne, c'est que la politique de la réduction de la mise en décharge a été beaucoup plus importante qu'en France. Le recours, contrairement à ce que l'on pourrait croire, à l'incinération est relativement important en Allemagne, mais aussi avec